Chapitre 22 à 25. Instructions diverses. De quoi nous sommes capables? La partie de notre livre à laquelle nous sommes arrivés ne demande pas beaucoup d'explications. Elle nous enseigne toutefois bien des leçons pratiques importantes. Plusieurs des institutions et des ordonnances que nous trouvons ici prouvent d'une manière frappante la terrible dépravation du cœur humain. Elle nous montre de quoi l'homme est capable lorsqu'il est laissé à lui-même. Elle nous montre de quoi nous sommes faits et la profondeur de notre dépravation morale. N'est-il pas utile d'avoir devant nos yeux un miroir fidèle où nous pouvons voir se réfléchir notre être moral? Beaucoup de personnes trouvent difficile d'admettre qu'elles seraient vraiment capables de commettre quelques-uns des péchés défendus dans les Écritures. Mais nous pouvons être certains que lorsque Dieu nous dit de ne pas commettre tel ou tel péché, c'est parce que nous sommes vraiment capables de le commettre. La sagesse divine n'élèverait pas une digue s'il n'y avait pas un torrent à contenir. Il n'y a aucune nécessité de dire à un ange de ne pas voler, mais le vol est dans la nature de l'homme. C'est pourquoi le commandement s'applique à lui. Il en est de même à l'égard de toutes les autres choses défendues. La défense prouve la tendance. Et ne pensons pas que ce sont seulement quelques êtres dégradés de l'humanité qui sont capables de commettre les abominations défendues dans les Écritures. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit au chapitre 17 du prophète Jérémie. « Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. » Verset 9. « Du cœur de qui parle-t-il? Est-ce du cœur de quelque abominable criminel ou de quelque grossier païen? Non, c'est du cœur humain en général, de celui de l'auteur et de celui du lecteur de ces lignes. » Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit la même chose. « Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. » Matthieu 15, verset 19. Il n'y a pas de profondeur d'iniquité où nous ne sommes pas capables de descendre. Et nous avons besoin de la main pleine de miséricorde de notre Dieu pour nous garder et pour nous empêcher de faire naufrage de toute manière, physiquement, moralement, spirituellement. Gardons toujours cette pensée dans nos cœurs et marchons avec humilité et vigilance en nous appuyant sur le bras qui seul peut nous soutenir et nous préserver du mal. Dieu n'est indifférent à aucun détail. Un autre enseignement précieux à relever dans cette partie de notre livre, c'est la manière merveilleuse dont Dieu s'occupait de tout ce qui concernait son peuple. Rien n'échappait à sa sollicitude. Rien n'était au-dessous de ses soins paternels. Une mère ne pourrait être plus attentive aux besoins de son enfant que le Dieu Tout-Puissant ne l'était aux détails les plus petits de la vie journalière de son peuple. Il les suivait de jour et de nuit, dans la maison et au dehors, en prenant connaissance de tout ce qui les concernait. Tout était réglé et arrangé pour eux. Leurs vêtements, leur nourriture, leur conduite les uns envers les autres, la construction de leur maison, le labourage et l'ensemencement de leurs champs, et jusqu'aux détails de leur vie privée. Nous voyons par là qu'il n'y a rien de trop petit pour notre Dieu, lorsqu'il s'agit de son peuple. Il prend un intérêt paternel à ses moindres circonstances. On est émerveillé de voir le Dieu créateur des mondes, celui qui soutient le vaste univers, donner des directions à l'égard d'un nid d'oiseaux. Mais pourquoi nous en étonner? Le Créateur prend soin de sa création et de chacune de ses créatures. La présence de Dieu au milieu de son peuple. Le grand fait qui devait toujours être devant chacun dans l'assemblée d'Israël, c'était celui de la présence divine au milieu d'eux. Ce fait devait agir sur toutes leurs habitudes et toutes leurs conduites. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant toi. Et ton camp sera saint, afin qu'il ne voie parmi toi rien de malséant, et qu'il ne se détourne d'avec toi. Chapitre 23, verset 14. Quel précieux privilège d'avoir l'Éternel marchant au milieu d'eux. Quel puissant motif pour avoir une conduite pure, pour prendre garde à leurs mœurs et à leurs habitudes journalières. Si Dieu était au milieu d'eux, pour leur assurer la victoire sur leurs ennemis, il y était aussi pour exiger la sainteté de leur vie. Ils ne devaient jamais oublier un seul instant celui qui cheminait avec eux. Et si cette pensée était désagréable à quelques-uns, ce ne pouvait être qu'à ceux qui n'aimaient pas la sainteté, la pureté et l'ordre moral. Tout Israélite qui aimait l'Éternel devait être heureux à la pensée qu'ils avaient au milieu d'eux, celui qui ne pouvait tolérer quoi que ce soit de souillé, de malséant ou d'impur. Le lecteur chrétien ne manquera pas de saisir la force morale et l'application de ce principe. Nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit habitant en nous, individuellement et collectivement. Quant à l'aspect individuel, nous lisons en 1 Corinthiens 6, verset 19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu ? Et vous n'êtes pas à vous-même. » Chaque croyant est un temple du Saint-Esprit, et cette vérité glorieuse est la raison de l'exhortation donnée en Éphésiens 4, verset 30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Lorsque nous sommes tentés de nous laisser aller à des pensées, à des sentiments, à des paroles qui ne sont pas selon Dieu, quel puissant correctif que de réaliser le fait que le Saint-Esprit habite dans nos corps comme dans son temple. Si nous pouvions toujours nous en souvenir, cela nous préserverait de bien des pensées vagabondes, de bien des paroles légères, de bien des actes inconséquents. Mais le Saint-Esprit n'habite pas seulement en chaque croyant individuellement, il est aussi dans l'Église collectivement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 1 Corinthiens 3, verset 16. C'est sur ce fait que l'apôtre fonde son exhortation de 1 Thessaloniciens 5, verset 19 « N'éteignez pas l'Esprit ». Le Saint-Esprit habite en nous individuellement et par conséquent nous ne devons pas l'attrister. Il habite dans l'Assemblée et par conséquent nous ne devons pas l'éteindre, mais lui donner la place qui lui revient et laisser toute liberté à ses opérations. Que ces grandes vérités pratiques soient enracinées dans nos cœurs et exercent une plus puissante influence sur notre marche, soit dans notre vie privée, soit dans l'Assemblée. L'amour dans la pratique. Nous citerons maintenant quelques passages de ces chapitres qui mettent en évidence la sagesse, la bonté, la tendresse, la sainteté et la justice de Dieu dans les directives qu'il donnait à son peuple. Prenez par exemple ce premier paragraphe. Si tu vois le bœuf de ton frère ou son mouton égaré, tu ne te cacheras pas de devant eux, tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère. Et si ton frère n'est pas près de toi, ou que tu ne le connaisses pas, tu mèneras la bête dans ta maison, et elle sera chez toi, jusqu'à ce que ton frère la cherche, alors tu la lui rendras. Et tu feras de même pour son âne, et tu feras de même pour son vêtement, et tu feras de même pour tout objet perdu que ton frère aura perdu et que tu auras trouvé. Tu ne pourras pas te cacher. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber sur le chemin, tu ne te cacheras pas de devant eux, tu ne manqueras pas de les relever avec lui. Chapitre 22, versets 1 à 4. Nous avons ici deux leçons dont nous avons déjà parlé. Quel tableau humiliant du cœur humain dans cette seule phrase « Tu ne pourras pas te cacher ». Nous sommes capables d'un égoïsme qui nous conduit à nous dérober aux demandes de sympathie et de secours de nos frères pour refuser de nous occuper de leurs intérêts, pour prétendre ne pas voir le besoin qu'ils ont de notre aide. Tel est l'homme. Tel nous sommes tous. Mais comme le caractère de notre Dieu brille dans ce passage, le bœuf d'un frère, ou son mouton, ou son âne, ne devait pas être abandonné, mais ramené, soigné et rendu sain et sauf à son propriétaire. De même pour le vêtement. Nous voyons là l'influence de la présence divine, l'atmosphère de la bonté et de la sollicitude divine. Il en est de même dans le passage suivant. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras un parapet à ton toit, afin que tu ne mettes pas du sang sur ta maison si quelqu'un venait à en tomber. Chapitre 22, verset 8. L'Éternel voulait que son peuple ait des égards pour autrui. Par conséquent, quand ils bâtissaient leur maison, ils ne devaient pas seulement penser à eux-mêmes et à leur convenance, mais aussi à la sûreté des autres. Nous sommes portés à ne penser qu'à nous-mêmes, à nos propres intérêts, à notre confort, à nos convenances. Il est rare que nous pensions aux autres lorsque nous bâtissons ou meublons nos maisons. Hélas, le moi est trop souvent notre mobile dans nos entreprises. Il faut que nous vivions dans l'atmosphère du ciel pour pouvoir planer au-dessus du vil égoïsme qui caractérise l'homme naturel. Nous devons avouer que nous qui faisons profession d'être chrétiens, nous ne sommes que trop portés à vivre pour nous-mêmes, à rechercher nos propres intérêts, à consulter nos aises et nos convenances. Que de zèle et d'énergie dépensés pour le « moi ». Tout cela est triste et humiliant, et n'aurait pas lieu si nos yeux étaient davantage fixés sur Christ, notre modèle en toutes choses. L'occupation constante du cœur avec Christ, voilà le vrai secret du christianisme pratique. Ce ne sont pas les règles et les règlements qui nous feront être semblables à Christ dans notre conduite, notre esprit, notre comportement. Il nous faut être imprégnés de son esprit, marcher sur ses traces, être occupés de ses gloires morales, et nous serons alors rendus conformes à son image. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Semences mélangées. Les instructions pratiques que nous trouvons dans le verset 9 du chapitre 22 s'appliquent d'une manière particulière aux ouvriers du Seigneur. Tu ne sèmeras pas ta vigne de deux espèces de semences, de peur que la totalité de la semence que tu as semée et le rapport de ta vigne ne soient sanctifiés. Il est à craindre qu'il n'y ait bien des espèces de semences semées dans la soi-disant vigne spirituelle d'aujourd'hui. Combien de philosophies, combien de sciences faussement ainsi nommées, combien d'éléments du monde ne trouvons-nous pas mélangés avec l'enseignement et les prédications dans l'Église professante? Combien peu la pure semence de la parole de Dieu, la semence incorruptible de l'Évangile de Christ, est semée dans le champ de la chrétienté? Un petit nombre seulement de ceux qui sèment se contentent de s'en tenir à ce que renferme l'Écriture comme matériau de leur ministère. Et ceux qui sont assez fidèles pour le faire sont souvent considérés comme des hommes étroits d'idées, des hommes de la vieille école, des arriérés. Eh bien, que Dieu bénisse ces hommes étroits d'idées, ces hommes de la précieuse école de l'enseignement apostolique. Nous les encourageons de tout notre cœur à rester en arrière des sombres temps d'incrédulité dans lesquels nous vivons. Tout vrai serviteur de Christ doit être un homme étroit d'idées, un homme dont la seule pensée, c'est Christ. Il doit appartenir à la plus ancienne école, celle de Christ. Il doit être aussi étroit que la vérité de Dieu et refuser le compromis avec les idées de ce siècle incrédule. Les efforts que font beaucoup de prédicateurs et de docteurs de la chrétienté pour se maintenir au niveau des idées du jour expliquent, en grande mesure, les progrès rapides du rationalisme et de l'incrédulité. Ils se sont écartés de la Sainte Écriture et ont cherché à orner leur ministère des ressources de la philosophie, de la science et de la littérature. Ils ont pensé plus à l'intelligence qu'au cœur et à la conscience. Les précieuses doctrines de l'Écriture, le lait pur de la parole, l'évangile de la grâce de Dieu et de la gloire de Christ ont été jugés insuffisants pour attirer et conserver les foules. Tout comme Israël avait méprisé la manne et s'en était dégoûté, de même l'Église professante s'est dégoûtée des pures doctrines du glorieux christianisme révélées dans les pages du Nouveau Testament. Elle a soupiré après quelque chose qui plaise à l'intelligence et qui nourrisse l'imagination. La doctrine de la croix dans laquelle se glorifiait l'apôtre a perdu son attrait. Et quiconque est assez fidèle pour s'en tenir uniquement à cela dans son ministère peut être assuré de ne pas être populaire. Que tous les vrais, fidèles et ministres de Christ, que tous les véritables ouvriers dans sa vigne, s'appliquent à suivre le principe spirituel énoncé ici dans le Deutéronome. Qu'ils se refusent résolument à semer deux espèces de semences dans la vigne spirituelle. Qu'ils se bornent dans leur ministère aux paroles de la foi et de la bonne doctrine. Qu'ils cherchent toujours à exposer justement la parole de la vérité, afin de ne pas être couverts de honte, mais de recevoir une pleine récompense, dans le jour où l'œuvre de chacun sera éprouvée. La parole de Dieu est la seule semence que doivent employer l'ouvrier spirituel. Nous ne méprisons pas l'instruction, loin de là. Nous la considérons comme très précieuse quand elle garde sa vraie place. Le joug mal assorti. Les Israélites ne devaient pas labourer avec un bœuf et un âne accouplés ensemble, et ils ne devaient pas se vêtir d'un drap tissé de diverses matières, comme de laine et de lin. L'application spirituelle de ces deux défenses est simple et importante. le chrétien ne doit pas s'associer avec un incrédule pour quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un lien matrimonial, religieux, philanthropique ou commercial. Il ne doit pas non plus se laisser diriger par des principes mélangés. Il faut que son caractère soit formé et que sa conduite soit gouvernée par les principes purs et élevés de la parole de Dieu. Mais nous avons déjà traité ce sujet ailleurs.